Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois Nathalie Mbumba Nzuzi, expert en finances publiques, magistrat financier de la Cour des comptes et auteur. Il s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre » publié en 3 tomes. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur Nathalis Mbumba Nzuzi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un ouvrage en 3 tomes. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler du titre et des différents tomes et puis on va aller dans les détails.
J'ai publié 3 tomes d'un seul ouvrage qui s'intitule « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre ». Pourquoi ce titre ? C'est parce que en réalité, les Congolais n'ont jamais produit eux-mêmes leur appareil de gestion de l'État qui respecte les principes de gestion des finances publiques. Voilà pourquoi je l'intitule comme cela, parce que je regarde l'aspect partant du Zaïre, qui, le mode de gestion, ne respectait pas les principes de finances publiques. Je vois encore la poursuite de la même situation avec le Congo démocratique, qui ne respecte pas les principes de finances publiques. C'est comme ça que j'ai dit, pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre. Donc, c'est une façon de dire que faisons un effort. Tous ceux qui se considèrent comme détenteurs de la congolité et détenteurs du Zaïrois, faisons un effort de construire ensemble un nouvel appareil de gestion de l'État. Pour les réaliser, j'ai réalisé 3 tomes. Donc, je pars premièrement de premier tome qui est le diagnostic des finances publiques depuis 1960. Là, je suis en train de présenter comment le pays n'a jamais été organisé selon les principes des finances publiques, selon la réalisation de l'intérêt général, selon la justice distributive du patrimoine collectif, selon la meilleure répartition du revenu national. Nous avons violé tous ces principes au profit de la réalisation de l'intérêt privé.
Vous parlez de 1960, est-ce que cette tare est un héritage colonial ou simplement nos pères du temps de l'indépendance ne savaient pas comment s'y prendre ?
Je ne donnerai pas la faute à nos pères de l'indépendance parce qu'en réalité, il faut partir de l'époque de l'EIC, de l'État indépendant du Congo, 1885, où des pays occidentaux, l'interventionnisme des capitalismes dans le monde s'est imposé en Afrique pour partager les territoires. Et plus grave, si pour les autres, on a créé des colonisations, nous, on a créé l'entreprise privée du roi Léopold II. Donc, vous comprenez déjà, quand on crée l'entreprise privée d'une personne comme un État, et la conséquence est qu'aujourd'hui, tous nos dirigeants pensent que la République, les ressources de la République les reviennent à eux, et qu'ils peuvent en consommer comme ils veulent, au détriment du peuple. Donc, ça prend son origine à partir de 1885.
Le péché originel.
C'est ça le péché originel que Lumumba n'a pas compris, que Kasavubu n'a pas compris, et même la génération actuelle n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi nous avons écrit cet ouvrage en 3 tomes pour leur présenter comment nous devons changer les choses.
Puisque vous parlez du diagnostic des finances publiques depuis 1960, c'est le premier tome. Quel est votre diagnostic ?
Le diagnostic est simple. Je pars d'abord de la publication de BAD. Parce que la motivation part de là. BAD a publié...
Banque africaine de développement. Oui.
BAD a publié le budget des États où pratiquement le Nigeria vient en premier lieu avec 581 milliards de dollars comme budget de l'État. Et la RDC se retrouve 50e pays sur les 52 avec un budget de 4 milliards. Quand moi je regarde ça, étant expert en finances publiques, j'ai dit non, mais ce budget, ce n'est pas vrai. C'est pas ça l'effectif de l'argent collecté par l'État congolais. L'État congolais collecte beaucoup d'argent, mais dont la magie du juridisme politique qui a été instituée depuis 1885, fait en sorte que c'est comme si les ressources de l'État deviennent des ressources. On partage selon les intérêts les prélèvements effectués par l'État en les soustrayant du budget de l'État. Et d'où il faudra que nous puissions arriver à faire un effort de récupérer tout ce qui a été soustrait du budget de l'État, partant du principe de l'interventionnisme de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général.
Et donc, en d'autres termes, l'État qui vole l'État.
Oui, nous sommes dans une situation où l'État congolais, enfin pas l'État congolais, ceux qui dirigent l'État congolais se comportent toujours comme le colon. Pas même le colon, mais comme le roi Léopold II le faisait. Donc, ils estiment que les ressources, les prélèvements de l'État reviennent de droit à eux, mais pas à la communauté. Or, si nous rentrons dans les principes de l'interventionnisme de l'État dans l'économie, nous allons voir qu'il y a l'intervention du fisc qui se présente de quatre manières. L'intervention fiscale qui a ses principes, l'intervention non fiscale qui a ses principes, l'intervention parafiscale qui a ses principes et l'intervention pénale qui a ses principes. Donc, on devait appliquer tous ces principes au profit du trésor public. Mais nous, tous ces principes ne sont pas appliqués au profit du trésor public, c'est plus au profit des intérêts privés et égoïstes de ceux qui gouvernent.
Alors, le deuxième tome, vous l'intitulez « Réforme des finances publiques qui s'impose », le troisième, « Relecture de la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011 ». Dans la note explicative qui accompagne vos ouvrages, vous dites ceci, je vous cite, « En effet, notre pays est gravement malade par la faute de la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011, loi de prédation gouvernementale instituée par les belligérants qui a non seulement politisé la gestion publique de l'État, spolié les biens et services publics de l'État, mais aussi et surtout détruit complètement l'organisation administrative et financière décentralisée de l'État. Comment ça ?
Oui, je parle d'abord de la fin. Quand on présente l'organisation décentralisée de l'État, ça voudrait dire on dit que l'État est indivisible. Et qu'en réalité, c'est l'autonomie administrative et financière de chaque entité de l'État qui fait en sorte que nous puissions consacrer des dotations budgétaires à chaque composante de l'État. Ce qui n'est pas le cas dans notre Constitution. Notre Constitution a créé pratiquement dans son article premier, il dit l'État est un et indivisible. Mais dans son article 2 et 3, il dote les provinces de personnalités juridiques. Les provinces sont des entités décentralisées. Mais malheureusement, notre Constitution refuse de reconnaître les provinces comme des entités territoriales décentralisées. Il les dote de personnalités juridiques. Quand vous dotez une entité décentralisée de personnalités juridiques, ça vous le dit, ce n'est plus l'État. Donc l'État est à part, les ETD, les provinces sont à part. Or, dans l'article premier, on dit l'unicité. Alors, le principe de l'unicité de l'État va de pair avec le principe de l'unicité des finances publiques. Or, l'article 171 de notre Constitution va encore plus grave en disant les finances de l'État sont distinctes des finances des provinces. Ça, c'est très grave parce qu'en réalité, on viole les principes sacro-saints de l'unicité de l'État, de l'unicité des finances publiques, de l'unicité du trésor, de l'unicité des caisses, qui doit être décentralisée et non divisée ou séparée. C'est un peu ça la grande difficulté. Deuxièmement, quand vous regardez même dans notre Constitution, l'État doit avoir une mission. La première mission, c'est la réalisation de l'intérêt général. La deuxième mission, c'est la réalisation de la justice distributive du patrimoine collectif. La troisième mission, c'est la meilleure répartition du revenu national partant de tous les prélèvements qui rentrent dans les budgets au trésor public et qui doivent financer le budget de l'État. Mais nous, tous ces principes sont violés. Les trésors publics n'existent pas comme institution. En lieu et place, on prend la banque centrale comme si la banque centrale était supérieure au trésor public. C'est le trésor public qui est l'État. La banque centrale n'est qu'un service public de l'État, à l'instar de tous les autres services de l'État. Mais malheureusement, le trésor public est diminué. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut que le trésor ne puisse pas exister et qu'on puisse voir comment chacun doit chercher à se retrouver sur base des prélèvements qui se font partout, mais qui ne sont pas collectés au profit de la seule caisse qu'on appelle le compte général du trésor.
Quand vous faites allusion à la constitution de 2006, constitution des belligérants, vous voulez dire que c'était volontaire, que c'était voulu?
Moi, je ne peux pas condamner le constituant. En 2005, vous savez très bien que nous étions dans une situation où on cherchait à réunifier les pays. Et en cherchant à réunifier les pays, c'était les intérêts des partis. parties belligérantes.
Qui primaient.
Au point qu'ils ne pouvaient nous produire qu'une constitution qui ne respectait que leurs propres intérêts. Donc, ils étaient des belligérants, ils se sont mués en partis politiques et ils ont privilégié les intérêts des partis politiques à partir du Parlement. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, on a privilégié plus le pouvoir du Parlement et on a détruit l'organisation administrative de l'État. Donc, notre Constitution a fait sciemment d'émietter l'administration pour faire en sorte que les politiques puissent primer. Or, aucun État dans le monde s'organise autour de la gestion politique. La gestion politique n'existe pas. La gestion qui existe, c'est la gestion administrative et financière de l'État et que la politique n'est là que pour orienter cette gestion administrative et financière. Mais dès lors que nous faisons l'inverse, nous créons la gestion politique qui se déroule juste au Parlement, donc en réalité, le gouvernement ne se retrouve que coquille vide parce qu'en réalité, tu ne peux rien faire au niveau du gouvernement. Tu ne peux rien choisir des intelligences pour gérer la République si tu n'es pas en harmonie avec l'aventure qui se fait au niveau du Parlement où les gens se partagent le gâteau. Donc, les pays comme gâteau en distribuant les postes gouvernementaux, c'est comme ça que ça devait être en violation des principes des finances publiques. Et voilà pourquoi nous, dans ce tome 2, nous proposons les réformes institutionnelles. Parce que nous disons ceci, aucun chef de l'État, même pas celui qui est là aujourd'hui, ne pourra organiser cet État avec notre constitution que nous avons. Parce que cette constitution ne fait que détruire, je dirais, ça ne se veut pas un pneu qui veut rouler pour nous amener vers la croissance et le développement. Ça se présente comme un rectangle ou un carré qui, pour rouler, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes pour venir le soulever, alors que nous avons besoin seulement de la roue. Et la roue a ses principes. Et ces principes, c'est consacré dans les finances publiques.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Nathalie Sumbumba Nzuzi, expert en finances publiques, magistrat financier de la Cour des comptes et auteur. Il s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre » publié en 3 tomes.
Parlons des réformes des finances publiques qui s'imposent. Quelles sont ces réformes?
En réalité, les réformes des finances publiques qui s'imposent se présentent de 3 sortes, c'est de 3 genres. La première réforme, c'est la réforme constitutionnelle. La constitution ne respecte pas les principes des finances publiques. Et dans notre constitution, il n'y a même pas les principes de l'interventionnisme du fisc au profit du trésor public. Et ça, c'est grave, parce qu'en réalité, les fiscs partant de la fiscalité, la non-fiscalité, la parafiscalité, doit intervenir au profit du trésor public. Ça ne doit pas aller dans le compte des structures, entre guillemets, services de l'État, transformées en entreprises publiques, dotées des personnalités juridiques pour soustraire les recettes de l'État au détriment du trésor public. Donc, ça, c'est le premier principe.
La révision constitutionnelle.
La révision constitutionnelle. Et je regrette que nous voulons toujours rester dans la distraction électorale, parce qu'en réalité, les élections ne sont pas un objectif en soi. On fait les élections pour chercher le meilleur gestionnaire. Or, aujourd'hui, vous et moi, nous savons que les meilleurs gestionnaires n'existent pas. Nous devons en créer. Nous devons en créer. Et ceux qui maîtrisent les finances publiques sont là. Ce sont eux qui doivent aider ceux qui sont au pouvoir pour comprendre l'organisation, les principes de finances publiques qui s'imposent pour que l'appareil de l'État soit une roue qui roule vers la croissance et le développement. Donc, c'est ça la première des choses que nous devons faire. Deuxièmement, c'est la réforme de la loi même de finances publiques. Notre loi des finances publiques, c'est une loi que j'appelle une loi incomplète. Parce que la loi des finances publiques, c'est une loi système. Qui dit loi système, ça voulait dire, c'est la loi qui doit être au carrefour entre la constitution et les lois sectorielles et domaniales. Parce que c'est la loi des finances publiques qui dicte les principes qui démontrent comment l'intervention de l'État sera fiscale, comment elle sera non fiscale, comment elle sera parafiscale, comment elle sera pénale, comment elle sera comptable, comment elle sera administratif au profit du trésor public et les trésors publics qui doivent financer les budgets de l'État. Dès lors que ces principes n'est présenté ni dans la Constitution, parce que la Constitution devait annoncer ces principes, la loi des finances publiques devait expliciter ces principes pour permettre aux lois sectorielles qui n'ont jamais existé dans notre pays de pouvoir organiser chaque ministère. Parce que nous avons un problème aujourd'hui. Nous devons d'abord réviser la Constitution et après nous révisons la loi des finances publiques en introduisant la première partie qui manque, donc la partie interventionniste de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général, de la justice distributive et la meilleure répartition du revenu national. Là, c'est le premier principe qui manque. Maintenant, le second aspect, c'est l'organisation du budget. Notre loi des finances publiques n'organise que le budget. Et il l'organise mal aussi parce qu'en réalité, quand vous soustrayez le budget pour ordre dans le budget de l'État, c'est grave parce que le budget de l'État a trois compartiments. Le budget général, qui n'organise que le fonctionnement de l'appareil de gestion de l'État. Les budgets annexes, qui organisent les productions sectorielles et domaniales de l'État autour des ministères. Et le budget pour ordre, qui pourvoit des moyens à chaque ministre, à chaque gestionnaire, pour pouvoir réaliser ces objectifs que j'ai cités plus haut. Alors, dès lors que les budgets pour ordre n'existent pas, ils sont remplacés par les comptes spéciaux. Or, les comptes spéciaux ne sont que des sous-comptes du compte général du trésor. Le trésor public n'étant pas existentiel, donc les comptes spéciaux n'ont pas un sens, parce qu'en réalité, le trésor public s'organise autour de plusieurs comptes. Le compte général du trésor, les comptes annexes, et les comptes spéciaux. Alors, les comptes spéciaux n'existent pas. Donc, même cette loi des finances publiques qu'on appelle la LOFIP, qui a prôné que nous allons vers la réalisation du budget programme, je l'ai dit depuis 2013, nous n'arriverons jamais au budget programme tant que nous n'avons pas révisé la loi des finances publiques. Troisième partie de la réforme, c'est pratiquement les lois sectorielles. C'est inconcevable qu'un ministère puisse être géré selon la volonté de celui qui vient au pouvoir. Non. J'ai défini l'État dans ces ouvrages où j'ai dit, même dans la proposition de constitution que j'ai fait, j'ai défini l'État comme étant une population qui se retrouve dans un territoire indépendant et souverain. Et ce territoire et cette population est gérée par un pouvoir public qui gère la communauté nationale dans les conditions fixées par la loi. C'est la loi qui doit fixer toutes les conditions d'organisation des gestions de l'État. Mais or, nos ministères n'ont pas de loi. Ce sont des secteurs économiques qui devaient avoir des lois sectorielles, des lois organiques sectorielles, qui devaient montrer comment un ministre doit se comporter lorsqu'il gère. Mais ici, nous avons des ministres qui ne connaissent rien de ce qu'il doit faire. Il n'y a pas longtemps ici, vous avez vu un ministre qui a dit qu'il est allé vers les secrétaires général pour apprendre comment gérer l'État. Non, je crois que si pour gérer la Cour constitutionnelle, si pour gérer la Cour des comptes, si pour gérer le Parlement, il y a des textes qui permettent à celui-là de suivre comment agir, comment un ministère qui gère un secteur économique du gouvernement doit être dépourvu de la loi organique qui l'organise. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup de ressources de l'État parce que nous n'avons pas de loi sectorielle. Et puisque l'État a été créé selon la logique de l'entreprise du roi Léopold II, alors c'est comme ça que ces lois-là sectorielles n'existaient pas. Mais nous devons les créer. Tout l'importance des États généraux, de tous les secteurs économiques, pour l'établissement des lois sectorielles qui doivent montrer comment on peut avoir un programme dans un ministère sectoriel et l'ensemble de programmes. Dans ce programme-là, il y aura des projets au sein du ministère et l'ensemble de programmes va se retrouver au niveau du gouvernement pour présenter un plan national au niveau du chef du gouvernement. Parce que le chef du gouvernement doit avoir un plan national de gestion de l'État et les ministres doivent avoir des programme de gestion sectorielle et domaniale, et c'est ce qui va faire en sorte que, jusqu'à la base, au niveau des communes et de collectivités, on va exécuter que l'orientation politique donnée au niveau de l'État central, au niveau du gouvernement.
L'interview reçoit Nathalie Sumbumba Nzuzi, expert en finances publiques, magistrat financier de la Cour des comptes et auteur. Il s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre » publié en 3 tomes.
Vous êtes également magistrat financier de la Cour des comptes. Dans tout ce que vous dites, quel est le rôle de cette Cour?
Là, je dirais que c'est malheureux parce qu'en réalité, la Cour des comptes n'a jamais fonctionné comme il se doit. La Cour des comptes, malheureusement, n'a pas eu la chance de décoller depuis 1987.
Qui est le gendarme financier.
Oui, il n'a pas eu le temps de décoller parce qu'en réalité, on n'avait nommé que des politiques. Donc le premier président de la Cour des comptes, c'était Kengo Wadondo. Le second, c'était Sambo Apidabangi. Et le troisième, c'était le professeur Mabimou Lumba. Tous des politiciens. Donc ce ne sont pas des magistrats. Ils n'ont pas cherché à faire fonctionner la Cour des comptes comme une juridiction financière. Et comme l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Parce que tout ce qui s'est fait au niveau du gouvernement doit être contrôlé par la Cour des comptes. Parce que c'est lui l'institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC. C'est lui la juridiction financière qui doit réprimer la faute de gestion. Par faute de gestion, nous voyons tout comportement anormal, irrégulier ou irrationnel qui empêche l'État d'avoir ses ressources et qui consacre la corruption et le détournement des deniers publics. Et la Cour des comptes doit tout faire pour ramener des choses à ce que les gens puissent respecter les principes des finances publiques, les règles établies par toutes les lois de la République, les normes comptables. Parce que la grande difficulté que nous avons dans notre pays, la comptabilité n'est pas érigée en loi. Alors qu'en réalité, en France, c'est une loi. Partout dans le monde, aux États-Unis, ce sont des lois. C'est grâce à la comptabilité qu'on arrive à saisir la gestion. Mais nous, la comptabilité publique n'existe pas. La comptabilité privée a été réduite au droit au WADA, alors que le droit au WADA, c'est un droit privé qui n'a rien à voir avec l'organisation de l'État. Donc, vous comprenez que nous avons vendu notre pays parce que tous les agrégats, tous les principes qui devaient nous permettre de protéger, de sécuriser le denier public, nous n'avons rien au point que notre gestion, c'est une gestion des personnes, des sentiments des gens. Ce n'est pas comme ça que l'État doit vivre. L'État doit vivre avec les principes de gestion des finances publiques, les principes comptables qui s'imposent chez tout le monde.
Aujourd'hui, puisque cet entretien est également pédagogique, aujourd'hui on parle beaucoup de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Quel est le rapport entre l'IGF, la Cour des comptes?
Bon, la loi des finances publiques actuelle, que je considère une loi incomplète, est claire en cette matière. L'IGF, c'est pratiquement les OPJ des infractions des finances publiques. Ce ne sont pas des OPJ des infractions de droit commun, comme le présente aujourd'hui. Parce que la différence entre un magistrat de la Cour des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire, c'est que eux se focalisent sur les infractions de droit commun, en général. Mais moi, je suis une juridiction spécialisée de l'État. Moi, je ne m'occupe que des infractions des finances publiques, dont le détournement et la corruption en fait partie. Si aujourd'hui, vous êtes en train de voir le théâtre qui se fait pour les procès, je peux me citer le procès Caméré, mais je vous dis que pour moi, un magistrat des finances publiques, c'est du théâtre. Parce qu'en réalité, les infractions des finances publiques ne peuvent être constatées que par un magistrat des finances publiques. Et la loi est claire. La loi qui organise la vie de la Cour des comptes est claire. La loi numéro 18 18/024, portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes. C'est clair, l'IGF, c'est nos OPJ. Bien que, du point de vue administratif, les rapports, ils doivent les donner au niveau du chef de l'État, au niveau du gouvernement ou de la personne qui les a mandatés pour faire le travail. Mais les premiers rapports, ça doit venir au niveau de la Cour des comptes et précisément au niveau du parquet général près de la Cour des comptes qui doit déceler les fautes de gestion conformément à l'article 127. C'est à nous, moi je suis magistrat du parquet, c'est à nous que relève le pouvoir de déceler la faute de gestion et d'en étudier si ces infractions ne sont pas des infractions de droit commun. C'est à nous de les déférer au près du ministre de la Justice qui transmet aux juridictions de l'ordre judiciaire. Mais or, des infractions des finances publiques conformément à l'article 180 de la Constitution sont soustraites des infractions de droit commun. Donc, il ne revient qu'au magistrat de la Cour des comptes, précisément du parquet général près de la Cour des comptes, de réprimer les fautes de gestion dont fait partie le détournement, la corruption, la fraude, parce que tout cela, l'État ne vise pas principalement les arrestations, mais l'État vise principalement la réhabilitation du trésor public dans ses droits, la réhabilitation du bien public volé ou détourné au profit du domaine public de l'État. Donc, c'est ça ce qui est plus important. Mais aujourd'hui, on a réduit toutes ces matières-là au profit des arrestations, que vous-même vous connaissez le résultat. Parce qu'en réalité, on arrête les gens, mais est-ce que l'État est réhabilité dans ce droit?
Vous êtes magistrat, mais vous n'avez jamais prêté serment. C'est un autre problème.
Là aussi, c'était un autre problème, comme vous venez de le dire. Nous regrettons constamment quand les chefs de l'État nous rassurent. Chaque année, je crois qu'en 2019, il nous a rassurés. En 2020, il nous a rassurés. En 2021, dans son discours à la nation, il nous a encore rassurés. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement... il a parlé le 13 décembre, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Et vous devez savoir que la Cour des comptes est la seule institution de la République qui ne dispose pas des animateurs nommés conformément à la Constitution, à notre Constitution. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui gèrent cette cour, et qui, en principe, ne devaient pas gérer. Et moi, qui vous parle aujourd'hui, je suis victime de cette gestion, entre guillemets, de ces gens qui, lorsque vous présentez que les choses ne doivent pas aller comme ceci, voilà ce que dit le principe. C'est nous, les protecteurs des finances publiques. Faisons un effort de nous comporter exemplairement pour éduquer les autres. Parce que c'est nous, les protecteurs. Nous sommes l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, le protecteur de deniers publics. Mais malheureusement, quand tu dis ça, je reçois des suspensions et des suspensions qui disent des citations irrégulière et illégale, qui dirent jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on se dit, bon, mieux vaut se focaliser juste sur la science, mieux vaut parler de ce qui devait être ou de ce qui doit arriver demain et observer ce qui peut arriver.
Notre entretien touche à sa fin. Je rappelle que je reçois Nathalys Mbumba Ndzouzi, expert en finances publiques et en organisation administrative décentralisée de l'État, également magistrat financier de la Cour des comptes, qui vient de publier un ouvrage en 3 tomes sous le titre « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre ». En guise de conclusion, pour tous les auditeurs et internautes qui vous suivent, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage et il est à combien?
Bon, l'ouvrage est publié chez Harmattan. En RDC, Harmattan se situe sur l'avenue Willery.
Rond-point Willery.
Pas au rond-point, mais quand vous entrez sur l'avenue, je crois que Nyangwe, Harmattan est là. Harmattan, Paris, mais succursale de la RDC, ça se trouve là. C'est là où on les vend. Au besoin, comme moi-même, je dispose aussi d'un certain nombre d'exemplaires, moi aussi, je les vends.
À combien?
Bon, le premier ouvrage coûte $30, diagnostic des finances publiques depuis 1960. Le deuxième ouvrage, réforme des finances publiques qui s'impose, ça coûte $30. La relecture de la Constitution de 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011, ça c'est $25. Donc, pour le 3 ouvrages, je les vends à $90.
Est-ce que vous pouvez donner également vos numéros de contact?
Mon numéro, c'est le 081-674-0879. Donc, j'ai dit 081-674-0879.
Monsieur Nathalys Mbumba Ndzouzi, merci d'être passé à Radio Okapi.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Alain Hirung Mouchège, coordination Michel Kifin Dangoy. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et beaucoup d'autres numéros de grande interview en allant sur www.radioocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.